Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec en espérant que vous ayez passé une belle journée. Surtout un excellent vendredi parce que c'est le début du week-end. Et pour ce faire ce soir, je vous ai garanti qu'on passerait une belle soirée en compagnie d'un individu que j'aime bien. J'aime bien lire, j'aime bien écouter. Il est au Mexique présentement, c'est Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média. Salut Jérôme!
Salut mon cher Marceau.
Merci d'être avec nous autres. Comment ça se passe au Mexique? J'imagine que tu as une température un peu plus adéquate que nous de ton côté.
Oui, fait assez chaud, fait assez chaud. Écoute, c'est assez enveloppant. Un petit 28, je pense, aujourd'hui. On est à Oaxaca, dans le sud du pays. C'est une ville patrimoine mondial exceptionnelle, une ville patrimoniale. C'est très, très agréable. Ça fait toujours plaisir de prendre un peu de recul aussi par rapport à l'actualité au Québécois, évidemment, que je continue à suivre, mais on a un regard différent, évidemment, de l'étranger. Donc, ça nous donne une autre vision. Ça nous permet, par effet de contraste, d'avoir d'autres analyses. Non seulement, bon, on décroche un peu, mais il y a cet effet-là qui, intellectuellement, est toujours intéressant.
Oui, de voir ce qui se passe ailleurs, Jérôme. T'sais, les gens qui sont uniquement au Québec, qui parlent uniquement français, sachez que si c'est votre cas, c'est pas un jugement, mais c'est juste par rapport à l'actualité, c'est un petit peu plus difficile de donner son opinion sur quelque chose quand on n'a pas vu d'autres façons de faire ailleurs dans le monde. Et Jérôme, je vais juste couper le. Je vais juste couper la caméra parce que je sens qu'on est en train de se perdre. Là. Mais donc, c'est ça. L'importance de sortir du Québec, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, comme tu le fais régulièrement, ou comme un gars comme Mathieu Bock-Côté peut faire régulièrement aussi en allant voir ce qui se passe du côté de l'Europe, c'est important. Ça nous donne d'autres angles de vue sur ce qu'on vit actuellement. Là.
Tout à fait. Non, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Un Québécois à Mexico. Publié en 2021. C'est vraiment un livre qui a été écrit sur cette base-là, c'est-à-dire ce que j'appelle un double choc culturel. C'est-à-dire, moi, le Québec, je l'ai connu, c'est-à-dire à l'étranger. C'est-à-dire, j'ai compris ce qu'était le Québec, non pas au Québec, mais au Mexique. Hein? Ça prenait cette distance. Cette espèce d'extrospection et non introspection, c'est-à-dire le regard extérieur. Hein. Et quand je suis revenu au Québec après quelques années à Mexico, ben, en fait, j'ai fait plusieurs allers-retours, mais c'est ça qui m'a permis de comprendre et c'est ça, de comprendre ce qu'était le Québec et un peu, évidemment, son enfermement. Tu parles, bon, de la langue française qui, oui, est une certaine barrière au Québec par rapport à l'actualité. Par contre, le français, elle reste une langue internationale. Hein. Donc, c'est un peu étrange qu'au Québec, on n'ait pas cette conscience-là. Mais oui, le fait qu'on est évidemment à part sur le continent, sur le plan linguistique, puis on est au nord aussi géographiquement. Mais on est isolé. Le Québec vit dans sa bulle à différents points de vue.
Il y a de belles choses au Québec, mais il y a des choses aussi qu'on aimerait qui changent, bien entendu. Hey, on va faire un tour un peu de l'actualité, si tu le veux bien, des dernières heures, des derniers jours. T'es un gars qui suit l'actualité internationale. Navalny, là, qui est décédé, là. D'après toi, est-ce un coup de Poutine encore ou c'est un pur hasard?
Bonne question. Faut dire que j'ai pas eu le temps aujourd'hui de m'y pencher plus qu'il faut. Écoute, il faut être clair, la Russie n'est pas un régime, n'est pas une démocratie libérale comme le Canada, là, il faut être très clair. Donc, il y a beaucoup de coups qui sont possibles. La Russie, qui est un régime excessivement hiérarchique et oligarchique, hein, et qui a également des accents mafieux, ouais. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une caste au pouvoir qui est née après, évidemment, la chute de l'Union soviétique. Il y a eu une sorte de vague de libéralisation. Et beaucoup de gens haut placés se sont emparés de pans de la société russe, là, de la société civile. Donc, des gens qui ont eu des entreprises se sont retrouvés avec du matériel militaire entre les mains, du matériel X ou Y, là, des ressources très, très diverses. Donc, après la chute de l'Union soviétique, est née une classe d'affaires, une classe d'oligarques, qui emmène excessivement large en Russie. Et Navalny, est-ce que je comprends, j'ai quand même suivi le dossier ces dernières années, était quelqu'un qui révélait des pratiques de cette oligarchie, de cette, de ces, oui, de ces oligarques ultra puissants. Vous le savez, il y en a qui ont des clubs de foot en Europe, là, t'sais, donc il y a des Russes qui sont excessivement riches. Et Navalny, c'est ça, disons que projetait une lumière qui n'était pas très, très appréciée par ces gens-là sur leur pratique. Donc oui, c'est possible que Navalny ait été assassiné. On ne peut pas l'écarter dans des régimes autoritaires comme celui qu'on retrouve en Russie, là.
Ouais. Mais c'est incroyable, Vladimir Poutine, à quel point c'est un être qui est extrêmement fort. Pour ce qui est de Navalny, bon, il est décédé à l'âge de 47 ans. Pourquoi on entendait parler de cet individu-là? C'est que c'était quelqu'un qui était un lanceur d'alerte, c'était quelqu'un qui était opposé à Vladimir Poutine. Et tu te souviens-tu comment on avait réussi à l'empoisonner la première fois? On était
Oui.
directement dans des films d'espionnage, c'est que l'individu était à l'aéroport, était en train de prendre un petit café, un thé en fait, et on avait réussi à contaminer le thé qui avait fait en sorte qu'on avait plongé Navalny dans le coma. Puis ben malheureusement pour Poutine, heureusement pour lui et sa famille, ben il avait réussi à s'en sortir après plusieurs semaines. Puis on l'a mis en prison pour à peu près 19 ans. Il y avait quelques sorties possibles. Il pouvait discuter avec certains membres de sa famille et eux se chargeaient de diffuser le message de Navalny sur les réseaux sociaux. Il semblerait que, bon, pour les mémères, là, il semblerait que c'est ça qui dérangeait énormément Vladimir Poutine et c'est probablement ça qui a fait en sorte qu'on a décidé de l'éliminer parce que les élections s'en viennent et Poutine veut pas de gens qui vont se présenter contre lui, veut rester au pouvoir. Quel homme fort, Vladimir Poutine.
Oui, c'est énigmatique. J'imagine que tu as vu Marceau, je te tutoie, là, l'entrevue avec Tucker Carlson. C'est vraiment un personnage. Il est extrêmement fort. Comme tu dis, fort au sens, ça ne veut pas dire qu'on apprécie nécessairement ses méthodes, mais c'est quelqu'un qui, comment dire, qui a un poids, qui a une aura et qui a une vision aussi, qu'elle nous plaise ou non. La vision de la Russie que Vladimir Poutine sur le temps long, dans les 30-40 minutes qu'il a pris avec Carlson pour lui expliquer tout le panorama historique qui a mené à justifier dans sa perspective l'invasion de l'Ukraine, c'est assez incroyable. Juste le prendre le temps, hein, c'est-à-dire on était déjà devant deux conceptions du temps. Donc un Américain qui est pressé, qui lui rentre rapidement, il achète ses affaires, il sort de l'épicerie, et le Russe qui lui prend le temps, qui a une mémoire de 1000 ans, de 2000 ans. Déjà, on voyait au début de l'entrevue ce clash. Donc, Poutine, qui est vraiment un personnage mystérieux, hein, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce qu'il n'y a pas d'enfants, qui sont ses maîtresses, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments cachés. C'est vraiment une autre société, évidemment, qui n'est pas la transparence de la société canadienne, c'est un euphémisme. Mais quelqu'un qui est respecté, hein, il faut le dire, Vladimir Poutine est extrêmement respecté, il est craint manifestement, il est craint en Russie, respecté en Russie, il est appuyé par une majorité écrasante encore de la population dans son action. C'est une autre mentalité, c'est une autre vision du monde, c'est une autre culture. Il faut être capable d'accepter aussi que tous les humains ne réfléchissent pas comme nous, hein, les Canadiens. Il faut quand même essayer, malgré tout, d'entrer en relation avec les Russes, avec les Chinois, avec les Iraniens, avec les Turcs, pour quand même rester dans la diplomatie. Bon, est-ce que ça va être possible dans ce cas-là? J'en doute. Mais la diplomatie, ça reste ça, hein. La diplomatie, c'est de parler des gens à des gens avec qui on n'est pas d'accord. Et ça, on a comme un peu oublié ça au Canada, le sens de la diplomatie. Rien nous oblige à être d'accord avec tout le monde. Et s'il fallait que ce soit le cas en diplomatie, on parlerait plus à personne.
Ce qui m'impressionne, Jérôme, c'est vraiment de voir que au Canada, aux États-Unis, les hommes et les femmes fortes ne font plus vraiment partie de l'échiquier politique. Il y a quelques exceptions au Canada, je pense entre autres en Alberta, mais sinon, puis loin de là, l'idée de cautionner Poutine, mais des hommes et des femmes forts, on dirait que ça n'existe plus. On regarde Justin Trudeau, c'est un premier ministre qui est faible. Il est faible. faiblard, passe son temps à pleurer. On regarde aux États-Unis, on a un Joe Biden qui a de la misère à marcher, qui a des troubles cognitifs, mais on se dit, c'est mieux un gars qui ressemble à Bernie dans Weekend chez Bernie comme président qu'un gars qui fait beaucoup de choses, qui dit peut-être certaines insanités, mais on va se le dire, Trump, pendant ses 4 années de mandat, a fait des choses. Il a peut-être poussé le bouchon à certains endroits quand il y avait des allocutions, mais de voir qu'on préférait un Joe Biden faible, à moitié mort comme président aux États-Unis versus un gars comme Donald Trump, je trouve ça particulier. Puis ça, c'est la vision du Québec. On préférait un Biden 4 ans qu'un Trump qui, lui, pendant 4 ans, a, on va se le dire, dominé la Terre. Là, pendant que Trump était là, Rocketman était très tranquille, puis t'avais un Poutine qui était très tranquille aussi, là.
Ben oui, quand est arrivé, quand a été élu Biden, le titre du Journal de Montréal et du Journal de Québec, c'était enfin un vrai président. Bon, un président qui n'a pas toute sa tête. Bon, enfin, on voit déjà que c'est assez curieux. C'est le rapport aussi à la vision, c'est la vision de l'homme. Hein. C'est sûr, dans une société comme le Canada, le Québec, où on parle de masculinité toxique. La réaction là, du footballeur, du chum de Taylor Swift récemment, qui a donné lieu, c'est ça, à un article de Radio-Canada où on dit le Super Bowl triomphe des émotions masculines. Bon, apparemment, être en colère serait une émotion masculine. J'ai comme appris ça cette semaine. Alors que, bon, on sait bien que les femmes peuvent être en colère, là, c'est tellement ridicule, mais il y a plein de clichés qui circulent de ce genre-là. Donc oui, ton observation est très bonne. Il y a plus d'hommes forts dans le milieu politique au Canada. Aux États-Unis, bon, il reste Trump, puis il en reste d'autres, malgré leurs défauts. Mais on est c'est ce qu'on appelle le monde post-héroïque où on n'aime pas les personnalités fortes qui se démarquent vraiment. Et on en a besoin plus que jamais, parce que l'ère Trudeau au Canada est une catastrophe. En relations internationales, c'est clair. Là, je leur ai dit, le Canada, l'échec diplomatique du Canada actuellement, c'est criant. Et c'est ça que le prof Caron, dont on a peut-être parlé, voulait amener cette semaine devant le comité des affaires étrangères. Mais l'ère Trudeau, on parle beaucoup d'une catastrophe économique, c'est vrai, mais c'est aussi une grande catastrophe diplomatique. Le Canada ne joue plus le rôle qu'il occupait autrefois sur la scène internationale. C'est vraiment un acteur en déclin. C'est un acteur qu'on ne prend plus au sérieux parce que, justement, nos dirigeants sont des hommes faibles ou des femmes faibles, je ne sais pas, qui ne valorisent pas la force en tant que... comment dire? C'est parce qu'on ne peut pas seulement parler d'anxiété puis de dépression. Là. Quand vous êtes dirigeant d'un pays, normalement, vous voulez que le pays soit fort. C'est-à-dire, donc, la force en tant que qualité là, qui nous permet d'avoir une économie forte, d'avoir des institutions fortes, de rayonner à l'international, c'est pas en parlant de droits, des minorités, etc., bon, qu'il faut respecter forcément, mais c'est pas en respectant, en faisant la promotion, par exemple, du transgenrisme sur la scène internationale que vous allez devenir un acteur important sur la scène internationale. C'est quand même... Ça fait sourire, là. C'est tellement évident pour moi, pour toi aussi, j'imagine, là, mais c'est... Vous pouvez parler des droits des femmes sur la scène internationale, mais qu'est-ce que ça veut dire, les droits des femmes sur le front en Ukraine? Bon, forcément, les violences sexuelles, mais c'est-à-dire qu'on a un discours qui ne se concrétise pas dans la réalité. C'est-à-dire, si vous voulez être influent, ça vous prend des institutions, ça vous prend probablement une armée, ça vous prend de l'armement, ça vous prend une diplomatie forte, ça vous prend pas des discours creux, là. Enfin.
Parce que la vision des médias québécois, c'est vraiment « Ah, Trump est rustre, Trump est un agresseur, Trump est un intimidateur, mais on aimerait mieux avoir un Biden. » La vision des médias québécois envers la politique fédérale, « Ah, Pierre Poilievre, il est rustre, il pointe des gens du doigt. » On aimerait peut-être mieux Justin Trudeau. C'est pas dit de cette façon-là, mais Pierre Poilievre, c'est quelqu'un qui va droit au but constamment et ça semble déplaire aux médias québécois. Puis tu regardes les intentions de vote au Québec concernant les libéraux, les conservateurs ou le NPD, exemple, puis tu vois que Justin Trudeau est encore là. Le NPD est encore là. Comment on peut voter pour le NPD aux prochaines élections? Tu sais, ce parti-là va aider en quoi? Tu sais?
C'est fascinant. Vraiment... Tu sais, les gens, bon, parlent d'un essoufflement de l'ère Trudeau. Forcément, c'est l'usure du pouvoir. Mais moi, chaque fois, je me dis, reste qu'on a quand même réussi à réélire Trudeau 3-4 fois, là. Après tout ce qu'on sait, récemment, on l'a vu, c'est la Arrive Cannes. Donc, des millions, des dizaines de millions perdus dans les coulisses d'on ne sait pas où. Une entreprise d'à peu près 2 employés, hein, celle qui s'occupait d'Arrive Cannes. Comment on a pu dépenser 80 millions? C'est ça le chiffre?
Ouais, 80 millions. C'était supposé être 80 000, puis ça a fini. Ben, c'est pas encore fini, mais on évalue à plus de 60 millions de dollars maintenant. Donc, un projet qui était supposé de coûter 80 000, plus de 60 millions de dollars maintenant, puis il n'y a personne qui va perdre son travail.
C'est fou. Puis, c'est pas le premier scandale sous Trudeau, là. Rappelez-vous, il y en a eu combien, la GACAM, il y a eu combien de scandales? Il y a eu, évidemment, la firme. Évidemment, McKinsey durant la pandémie, mais écoute, on a accumulé un nombre incroyable de scandales d'envergure sous Trudeau. Ça ne l'a jamais vraiment ébranlé, mais ça l'a ébranlé momentanément. Il y a eu aussi la firme là, d'ingénierie, je pense, là, à l'étranger. Comment s'appelle cette firme d'ingénieurs? C'est fascinant. Écoute, le Canada est un pays fascinant. puis le rapport à Poilievre reste, par rapport à des gens comme Trump, par rapport à des hommes forts de ce genre-là, ça reste quelqu'un de très modéré, en plus, Pierre Poilievre. Là, je ne vois pas pourquoi on le présente comme aussi radical. Il y a un discours, Pierre Poilievre aux États-Unis serait limite un démocrate. Là, c'est la droite canadienne est encore presque la gauche américaine. C'est pas donc, il n'y a pas de raison de s'énerver, il n'y a pas de raison de crier à la menace fasciste ou complotiste. C'est un personnage très modéré et très intéressant aussi avec sa femme, hein, qui est d'origine vénézuélienne. Donc, on ne peut pas dire non plus que Pierre Poilievre, c'est quelqu'un qui serait raciste ou quelque chose de ce genre-là.
Au Québec, ils sont capables de le faire. Souviens-toi que certains, sur les réseaux sociaux, avaient qualifié Éric Duhaime de roi des homophobes.
Oh boy!
C'était quand même assez particulier. Ils sont capables d'aller très, très loin, les détracteurs. Mais pour ce qui est de Pierre Poilievre, c'est un gars, encore une fois, qui a un style très expéditif. Il aime beaucoup le gros bon sens. Et ça semble pas plaire, du moins, aux médias québécois. Puis, par le fait même, ça se répercute. Hein? La clientèle qui écoute TVA, qui est rivée du matin jusqu'au soir sur LCN ou sur TVA pour regarder les bulletins, eux, c'est une clientèle qui vote. Là. C'est des gens peut-être un peu plus âgés qui n'ont pas accès nécessairement à toute l'information qu'on peut trouver sur Internet ou sur les autres postes de télé ou dans les journaux ou accès à Libre Média, dont est l'éditeur. Ces gens-là n'écoutent, ne jurent que par TVA ou par LCN, puis vont voter selon ce que TVA ou LCN leur mentionne.
Oui, tout à fait. Puis effectivement, il y a l'âge. Ça, c'est un bon point. Les personnes plus âgées votent plus que les jeunes. Il y a un déficit, il y a un déséquilibre, c'est-à-dire à ce niveau-là. Les jeunes doivent réinvestir l'espace public, doivent se réengager dans la politique s'ils veulent faire entendre leur point de vue. Heureusement, par contre, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, ceux qu'on appelle les milléniaux, qui sont quand même beaucoup en rupture là, avec ce qu'on décrit comme mode de pensée très, très woke ou très modèle québécois. Là. Je regarde un peu les réseaux sociaux, là, les TikTok, puis toutes sortes de j'essaie évidemment, avec Libre Média, on essaie de rejoindre le plus de gens possible à travers ces plateformes-là. Et je vois que chez les jeunes, il y a une sorte de résistance face à ce qu'on décrit là, comme société de censure, société de safe space. Il y a une sorte de résistance. Puis, en tout cas, moi, ça m'encourage, d'une certaine façon, de voir ces jeunes-là, qui ne sont pas parfaits, évidemment, qui ont divers problèmes, comme toutes les générations, mais... Je ne suis pas entièrement pessimiste non plus là, pour l'avenir.
J'étais en train de lire tout à l'heure un article sur Libre Média, puis vous êtes rapide sur la gâchette, puis vous allez rapidement aux sources. Moi, j'adore ce journal-là sur le web, Libre Média, dont est éditeur. Vous parlez du cas de Jean-François Caron. Pour les gens de Québec qui entendent Jean-François Caron, non, c'est pas Jean-François Caron, l'homme fort. Non, Jean-François Caron, il enseigne à l'Université Nazarbayev. C'est un politicologue qui a fait le trajet entre le Kazakhstan et le Canada parce qu'il aurait été invité par le Comité permanent des affaires étrangères et du développement international parce qu'on voulait avoir son opinion concernant la politique étrangère au Canada. Et il aurait été cancellé en arrivant à Ottawa.
Oui, ça c'est incroyable. C'est une histoire qu'on a suivie un peu toute la semaine. Donc, le prof Caron qui part du Kazakhstan fait 30 heures d'avion. Pour arriver à Ottawa, il y a une invitation officielle du comité sur les affaires étrangères à Ottawa. On l'invite à exprimer son point de vue sur l'état de la politique étrangère canadienne. Il arrive à Ottawa 30 heures plus tard et on lui apprend, écoute, une heure avant son allocution, que c'est annulé, qu'il ne participera pas. Vous imaginez, en plus, les frais de voyage sont remboursés par les contribuables. On parle de 7-8 000 $ d'avion. On parle pas d'un vol Québec-Orlando, là, comprenez. 6 000 $ d'avion remboursés qui doivent être remboursés aux frais des contribuables pour une allocution qui n'a jamais été présentée. Donc là, on a essayé de faire la lumière sur cette affaire-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'au départ, le prof Caron, comme on l'appelle, n'a reçu aucune justification de la part du comité. On lui a simplement dit « Vous avez été désinvité ». Vous avez été retiré de la liste. Donc, c'est fini pour vous. Vous pouvez retourner chez vous. Non, mais imaginez 30 heures d'avion. Là. Moi, après 12 heures d'avion à Paris-Mexico, je suis brûlé. Là. Imaginez 30 heures d'avion. Et donc, Libre Média a appris aujourd'hui que ce serait une professeure du nom de Stéphanie Carvin qui, selon les sources officielles du Bloc québécois, aurait exigé qu'on retire le prof Caron, sans quoi elle ne menaçait de ne pas faire sa présentation. Donc, elle a dit, si le prof Caron est là, moi, je débarque. Et le président du comité des affaires étrangères, le député libéral, a obtempéré et a accepté cette demande qui est inacceptable. Et donc, le prof Caron a été cancellé par une professeure d'université de Carleton à Ottawa, et non à Carleton, Nouveau-Brunswick. On est dans le wokisme. Écoute, c'est une histoire qui se répète en Occident, malheureusement, d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine.
Mais pourquoi on avait peur du prof Caron? C'est un gars qui a une expérience internationale majeure. Il est au Kazakhstan depuis des années et des années. C'est un intellectuel comme toi. C'est pas quelqu'un qui va se fier à des oui-dire quand il forge son opinion. C'est quelqu'un qui fait ses recherches. C'est quelqu'un qui étudie constamment. Puis de voir que cet homme-là allait à Ottawa pour donner son opinion, moi, ça me rassurait parce qu'on avait comme une autre vision des choses. Qu'est-ce qui fait en sorte que Caron a fait si peur que ça à sa collègue pour qu'elle, elle dise, ben si vous l'invitez lui, moi, j'y vais pas?
Ben oui, ça ferait un bon titre d'article d'ailleurs. Qui a peur du prof Caron? Tu me donnes l'idée.
Charge 10%, Jérôme.
Ah oui, bon, OK, on s'entend. Je t'envoie le contrat tantôt. Ben écoute, le prof Caron un point de vue critique sur la politique étrangère du Canada. Donc, il avait donné d'avance au comité le texte pour des fins de traduction, apparemment. C'est quelqu'un qui décrit le déclin du Canada sur la scène internationale, mais comme d'autres, hein, c'est pas le seul. Il y a Jocelyn Coulon, par exemple, qui est un ancien journaliste, rédacteur en chef du blog du Corim, du Conseil des relations internationales de Montréal et qui est aussi l'ancien conseiller de Stéphane Dion. Donc, on a quand même au Canada un certain nombre d'experts qui disent le Canada, sur la scène internationale, ça ne fonctionne plus. Là. Et le prof Caron, ben, lui, venait à Ottawa pour dire ça, en gros, et pour dire ce qu'on disait tantôt, que, par exemple, la promotion des droits LGBT au Kazakhstan, puis en Eurasie, puis en Iran, et forcément, c'est pas la meilleure diplomatie. C'est pas comme ça que vous allez convaincre les Chinois de faire plus de commerce avec le Canada. Donc, c'est un, C'est une allocution qui est disponible sur le site de Libre Média en passant la traduction française. Il n'y a rien pour moi dans ma perspective de choquant là-dedans, même que ça devrait être des évidences. Mais cette prof-là, qui semble assez woke, assez à gauche, ne pouvait pas tolérer le simple fait que le prof Caron soit assis à la même table qu'elle. C'est incroyable, là. Quand on est prof d'université, il y a un principe qui s'appelle la collégialité. L'université, ça marche par les pairs, hein, la révision par les pairs. Les articles scientifiques qu'on publie sont révisés par les pairs. Donc, tout fonctionne par élection. C'est ça l'université. C'est-à-dire, le respect des collègues est censé être fondamental. Et là, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas le moindre respect pour leurs collègues. C'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. C'est toute l'université qui, dans son fondement même, se renie elle-même. L'université ne fonctionne pas comme ça. Elle fonctionne sur le dialogue, sur l'échange entre les pairs. C'est fou. Honnêtement, c'est fou, là. C'est renversant.
C'est fou à quel point on essaie de canceller les gens qui ne pensent pas comme nous. Puis ça vient toujours d'un bord, là, d'une frange de la gauche. C'est bien rare que ça vient des gens qui sont au centre, qui aiment bien entendre les deux côtés de la médaille. Ça fait un penser un peu à l'histoire de Patrick Provost à l'Université Laval.
Oui, oui.
Qu'on essaie
c'est un bon exemple.
Qu'on essaie de canceller, tu sais, de voir que prof Caron se pointait là avec une expérience, avec son opinion qui était basée sur des faits. Je trouve ça hallucinant qu'on décide de canceller ça sans nécessairement en dire plus au prof Caron.
C'est scandaleux. Là, on vient en passant au moment où on enregistre l'émission, on vient juste là, d'apprendre ce que je vous dis là, sur Mme Stéphanie Carvin.
Mais tu l'as vécu toi aussi, à plus petite échelle, tu l'as vécu aussi. On a essayé de te canceller.
Ah oui, tout à fait. Ah oui, moi, j'ai essayé deux fois de faire un doctorat, deux fois, puis deux fois, on m'a mis des bâtons dans les roues parce que j'étais persona non grata déjà à l'université, à l'âge que j'avais, là. C'est-à-dire, je pense que j'avais évidemment la capacité de faire un doctorat, mais écoute, c'était trop compliqué dans le contexte de l'université actuelle. D'ailleurs, j'ai été à 2 ans à l'université d'Ottawa et mes opinions que j'émettais en dehors de l'université, parce qu'à l'université, on comprend qu'on est surveillé, là, n'étaient tellement pas appréciées que c'était impossible pour moi de naviguer dans ce contexte-là. C'est-à-dire que, d'abord, on m'a fait comprendre très clairement que je n'aurais jamais de financement comme chercheur, parce qu'on ne voulait pas financer des gens qui étaient supposément à droite, ou sans doute à droite sur bien des sujets, là, mais je veux dire, c'est assez réducteur de dire la droite et la gauche, bon, qu'est-ce que ça veut dire encore, là? Donc, je n'aurais pas de financement, je n'aurais probablement jamais de poste de professeur à l'université au Canada. Ça, c'était très clair, là, alors que j'étais encore étudiant. Donc, j'ai décidé de m'aligner vers le journalisme, là, parce que je voyais qu'il n'y aurait pas de débouché à ce niveau-là pour moi. Donc oui, j'ai vécu de l'intérieur plusieurs années, beaucoup d'ostracisme, beaucoup, beaucoup d'adversité, d'intolérance. C'est très, très, très ancré à l'université et ça a empiré depuis mon départ d'université en 2018. Donc, entre 2018 et 2024, j'ai vu de loin que ça c'était encore pire, que ça ne faisait que se radicaliser. Donc, moi, si je veux faire un doctorat un jour, puis je ne pense pas que j'aurai le temps de faire ça, honnêtement, là. Puis, je suis très content en passant, là. J'ai une déception, évidemment, de ne pas avoir terminé ma thèse, mais je suis très, très content du travail que je fais aujourd'hui. Puis, ça m'a permis de faire d'autres choses. J'ai vécu à Mexico. J'ai eu beaucoup d'autres expériences. J'ai écrit sur l'Amérique latine. Je ne me suis pas arrêté là. J'en ai pas fait une dépression. Mais c'est ça. C'est un milieu qui est excessivement fermé. Et c'est extrêmement déplorable parce que la pensée est censée se développer à l'université. C'est juste parce que l'université, c'est quand même là où se développent beaucoup de théories. Si on laisse le champ libre à ces gens-là, il ne faut pas s'étonner que dans les médias, on reçoive un peu ce climat-là. C'est-à-dire ça part d'en haut puis ça descend. Là. Toutes les théories woke, c'est élaboré à l'université. Ces gens-là ne seront pas confrontés à des gens qui pourraient les challenger. Donc, ils ont comme le champ libre et ça donne ce que ça donne.
Est-ce que tu as l'impression qu'un jour, ce sera renversé ou tu as l'impression qu'un jour, on n'en viendra plus au centre? C'est revenir à la base de la science, c'est-à-dire constamment remettre en doute nos hypothèses?
Oui, oui. Mais comme je te disais tantôt, je sens chez certains jeunes un désir de d'être en rupture avec ce monde-là. C'est-à-dire, il y a comme une résistance de la part de cette génération-là. Ici au Canada, ça va être long. Écoute, déjà, si Poilievre arrivait au pouvoir, on aurait déjà quelque chose comme un début de retour du balancier. Probablement qu'il va y parvenir, Poilievre. Mais c'est très, très ancré. Et le Québec reste une société où qui a de la difficulté à faire son examen de conscience. Il n'y a pas eu de réflexion sur la pandémie. On est un peu... on fonctionne avec des automatismes. Hein, et on ne réfléchit pas beaucoup et on ne veut pas non plus se poser trop de questions sur soi-même parce que ça peut être blessant, ça peut être confrontant. Donc, on préfère se mettre la tête dans le sable. C'est beaucoup plus facile, c'est plus confortable. Donc, le retour du balancier, disons que ça va arriver plus vite ailleurs qu'au Québec. Là. Il faut être honnête. Après, il y a un gros appétit. Moi, je le vois comme rédacteur en chef de Libre-Média, un gros appétit pour une diversité d'opinions puis avoir d'autres choses que, bon, la pensée unique, le prêt-à-porter.
Ouais, ben, je veux dire, il était temps que Libre-Média arrive dans la vie des gens. Là. Puis, c'est important de lire tous les journaux, mais Libre-Média, vous êtes à part. Puis, moi, je vous apprécie grandement parce que souvent, vous m'amenez ailleurs. Tu sais, même quand on parle de nouvelles internationales, national, tu as écrit un article sur les Américains qui rêvent d'envahir le Mexique. Je veux dire, j'ai vu ça nulle part. Là. J'ai vu ça nulle part dans le Journal Le Québec ou dans Le Soleil. T'sais, ça prend ce genre de vision-là extérieure, puis peut-être un journal qui est peut-être un peu plus à droite, où on donne de l'opinion aussi. On parle de culture, d'histoire, d'environnement, d'actualité, mais avec une autre vision des choses. Et moi, j'avais besoin de ça, de Libre-Média là, dans mes lectures. Là.
Merci, ben écoute, c'est apprécié. Oui, puis je pense que c'est rafraîchissant, Libre-Média, parce que comme tu le dis, c'est un bon exemple, l'article sur les Américains qui rêvent d'envahir le Mexique. Notre but, c'est un peu ça, c'est d'offrir un contenu, évidemment, qu'on retrouve nulle part ailleurs dans les grands médias québécois, de sortir des sentiers battus, puis de faire réfléchir, puis c'est ça, d'amener tout simplement, donner la parole à des gens qui l'ont pas assez. Toi, tu le fais bien à ton émission. Mais il faut être plus nombreux encore à le faire au Québec. C'est des gens qui commencent à le faire, Stéphane Bureau. Il y a un certain... ça s'en vient. Je pense quand même qu'il y a une mutation, puis le déclin des grands médias est inéluctable. C'est-à-dire, on le sait que leur modèle économique ne tient plus. Et sans les fonds publics, les grands médias sont appelés à mourir. Donc, forcément, il va y avoir une sorte de brassage, de reconfiguration du système médiatique. Qu'est-ce que ça va donner exactement? C'est à suivre. Mais il y a un appétit. Tout n'est pas noir. Il y a un appétit pour du contenu alternatif, puis des nouvelles qui ne sont pas simplement celles qui sont repiquées par les grands médias, qui viennent souvent sur l'international. C'est des agences de presse. Donc, au Québec, tu as 8 fois le même article qui vient de l'AFP, par exemple, l'agence France Presse ou Reuters. Donc, tu vas lire. Sur l'Ukraine, c'est le même point de vue partout. Là. C'est-à-dire, c'est que les dépêches de l'agence France Presse qu'on va lire dans Le Devoir, dans La Presse, dans le Journal de Montréal, à Radio-Canada. Donc, il y a vraiment une uniformité de l'information dans les grands médias qui est rendue extrêmement lassante. Là. C'est-à-dire, on a compris le principe. Et ça prend plus de diversité. On parle beaucoup de diversité culturelle, mais on parle beaucoup, pas assez, vraiment pas assez de diversité intellectuelle.
Puis, tu sais, moi, Libre-Média, je le dis aux auditeurs, là, mettez ça dans vos favoris sur votre ordinateur ou encore sur votre cellulaire. Allez consulter. Les articles sont super intéressants. Puis ça nous donne des fois un autre angle à ce qu'on aurait peut-être pu penser en lisant juste les journaux du Québec. C'est tout du monde de chez nous qui contribue, quoique tu en as certains qui viennent d'Europe, si je comprends bien.
Oui, quand même, plusieurs quand même. Oui, on a plusieurs collaborateurs français. Donc, puis notre chaîne YouTube a un grand public français. Il y a deux volets à Libre-Média. Il y a notre site Internet avec mes articles écrits et il y a la chaîne YouTube qui est en pleine expansion. On est passé de 2000 à 35 000 abonnés en un an, quand même. Là. On a eu plus d'un million de visionnements en 2023. On est assez fiers. Là. Les deux premières vidéos, deux premières entrevues de 2024 ont fait plus de 200 000 visionnements. D'ailleurs, sur la Russie et sur le nouveau monde multipolaire, 212 000 écoutes, celle avec le Xavier Moreau. C'est quand même assez satisfaisant. Ça s'en vient. On est en croissance. Hein. Donc, Libre-Média, il y a deux pôles. Libremedia.com avec un trait d'union, c'est la, pour lire les articles et pour voir nos vidéos, c'est sur YouTube, la chaîne YouTube de Libremedia.
Tes grandes entrevues aussi, comment tu trouves ça d'être un intervieweur de renom maintenant, un intervieweur international, tu sais?
Ben oui, c'est ça. Puis j'ai même fait des entrevues en espagnol, imagine-toi donc, qui sont sous-titrées. J'en ai fait deux quand même récemment. Une sur Javier Milei en Argentine, le fameux président coloré, là, ultra-libéral, comme on le décrit. Ben écoute, c'est nouveau pour moi, je te le cacherai pas. Moi, il y a 2 ans, j'étais un journaliste 100% de presse écrite. J'étais un gars relax, qui fait des articles de presse, qui envoie ça en Europe, qui publie dans des revues intellectuelles, Le Point, des articles de fond, et qui tout d'un coup s'est retrouvé quand même devant une caméra. Moi, je faisais pas ça. Après ça, bon, j'étais sur des réseaux sociaux très actifs, mais c'est vraiment mon associé, Francis Denis, Libremedia, qui m'a convaincu qu'il fallait lancer un volet vidéo, puis ça paraît évident, là. Mais c'était pas si évident pour moi il y a 2 ans. Et il m'a dit, non, il faut absolument qu'on fasse du vidéo, des entrevues filmées, qu'on fasse de la télé alternative, finalement. Puis là, il sort un documentaire. On sort un documentaire sur l'Australie, sur les aborigènes d'Australie, imagine-toi donc, le 20 février prochain. Donc, on a même une série de documentaires. Et non, c'est très sérieux, écoute, c'est un très, très bon documentaire là, sur le référendum, sur la voix des aborigènes en Australie. C'est très exotique, un regard différent. On a plein de sujets, vraiment, c'est très international aussi, le Libremedia. Ouais. T'es beaucoup Amérique latine, Australie, Europe, France, forcément,
oui,
Québec.
Il y a des entrevues que j'ai appréciées que tu as fait, je pense, avec Charles Gave.
Oui.
Tu parlais du principe de Pareto, j'ai adoré, puis tu avais aussi une entrevue avec Didier Raoul.
Ben oui, Raoul, ça a été assez marquant. Tout un personnage, hein, ce gars-là.
Ouais.
Il se décrit comme un mâle alpha, hein. C'est fascinant aussi.
Il doit être difficile à cerner, par exemple.
Oui, il faut comme le réchauffer. Là. Au début, il est très fermé en entrevue, puis c'est pas juste avec moi, là, c'est avec tout le monde. Et là, tout d'un coup, il faut comme l'ouvrir, là, et là, il s'ouvre à nous. Et là, il commence à être rigolo, puis à compter des anecdotes. Mais c'est sûr qu'il faut comme... être assez habile là, pour lui faire dire des choses qu'il n'a pas dit ailleurs. Là. C'est ça qui rend une entrevue intéressante, là, c'est-à-dire essayer d'avoir pas des scoops, mais parce qu'il y a des gens forcément qui répètent toujours la même chose en entrevue et on essaie de les forcer à sortir de leur cassette. Hein, c'est un peu ça le but. En tout cas, avec Raoult, c'était un peu mon but. Je pense que j'ai réussi parce qu'il dit des trucs assez marrants. Là. Parce que moi, j'ai lu son autobiographie et le gars est vraiment crinqué. Là. C'est-à-dire, il croit vraiment que c'est un mâle alpha. Là. Il le répète. Là. Et là, je suis en entrevue avec lui et là, je me suis dit, il ne faut pas que je rie. Et là, j'ai dit, là, Monsieur Raoult, vous présentez plusieurs fois comme un mâle alpha dans votre livre. Écoute, c'est... Je me suis jamais autant retenu de ne pas rire. Écoute, c'était incroyable.
Puis avec Charles Gave, ça devait être exceptionnel aussi. C'est tout un bonhomme, là.
Ah oui, c'est toute une pointure. Oui, ça, c'est une autre entrevue qui a bien marché. Donc oui, on est très on est très français à ce point de vue-là. On a beaucoup d'intervenants français, mais on garde évidemment notre touche québécoise, nord-américaine. Puis c'est ça qui fait qu'en France, on va être apprécié aussi. C'est-à-dire, on n'a pas intérêt à essayer de jouer au faux français. On est québécois et on va aussi s'imposer en France. On est déjà un peu connu par les gens dans le milieu. On n'est pas énorme en France, là, mais je sais très bien qu'à Paris, notre nom circule dans les cercles des médias indépendants, tout ça. C'est très le fun. Je suis très satisfait. Moi, je suis très content du parcours qu'on a eu depuis le début, ça fait juste 2 ans, Libremedia. Mais c'est comme... écoute, c'est assez fulgurant. Après, évidemment, il y a encore des défis économiques. On veut plus d'abonnements, on a besoin de recevoir plus de dons pour payer plus de monde, hein, avoir plus de contenu. T'sais. Donc, plus on a de budget, plus on va pouvoir faire de contenu. C'est assez simple. Mais non, je suis très satisfait. Moi, je suis un homme assez heureux, là, ce temps-ci. Puis ma famille va bien aussi, là. En tout cas, bref, des confidences.
On va faire... Ben oui, mais je sers à ça. Je suis un intervieweur comme ça. J'essaie de faire aller mes invités à des endroits où ils vont jamais, Jérôme.
c'est ce que je comprends, oui.
On est avec Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média. Jérôme Blanchet-Gravel qui va être là tout de suite après la pause, aussi encore pendant quelques minutes. On fait une courte pause, on vient.
Marceau, le soir. Le soir.
102.1
Boulevard.
Ce soir, on a le plaisir d'être avec Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média. Libre Média, quel âge maintenant, Jérôme?
2 ans et demi à peu près.
2 ans et demi. Est-ce que c'est compliqué de partir un nouveau... un nouveau journal, parce que je sais que Libre Média existait, mais toi, quand t'es arrivé, il a fallu que tu mettes des choses en place. Est-ce que c'est très, très compliqué de partir ça?
Ben moi, c'est pas moi qui... J'ai pas fondé Libre Média. Ça, c'est une nuance qu'il faut que je fasse souvent. C'est-à-dire, moi, j'ai été au départ engagé comme rédacteur en chef par un groupe de fondateurs de Libre Média qui se sont retirés à peu près un an après, pour me laisser toute la place, finalement. Faut dire que c'est moi qui étais vraiment aux commandes comme rédacteur en chef. Donc, c'est des gens qui, eux, croyaient qu'au Québec, on avait besoin de ce genre de nouveaux médias, surtout dans un contexte de fin de pandémie. Quand on a lancé Libre Média, on était encore dans les mesures sanitaires. Donc, c'est tout un autre contexte. Vous comprenez que les gens voulaient des médias où on était capable d'aborder la question de la pandémie sous un autre angle. Donc, c'est des gens qui voulaient ça. Et ensuite, je suis devenu également directeur général. C'est-à-dire, je cumule 2 chapeaux actuellement à Libre Média, celui de DG, même président, et de directeur en chef. Donc, normalement, c'est des postes qui sont séparés dans des grands journaux. Et pour l'instant, c'est comme ça. Est-ce qu'un jour, il y aura un conseil d'administration à part entière? C'est possible. Mais est-ce que c'est compliqué? Oui, c'est beaucoup de travail. Écoute, je travaille énormément, ma femme te le dirait. C'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est-à-dire tellement je dors, là, mais les nouvelles peuvent survenir à peu près n'importe quand, toujours à l'affût. Il faut travailler. Si tu ne veux pas travailler, oublie ça. Là. C'est comme n'importe quelle entreprise, je pense. Si tu ne veux pas travailler, sois fonctionnaire. Non, c'est pas vrai. Désolé pour nos auditeurs. C'est pour ça que je voulais dire fonctionnaire. Mais faut travailler fort. Il faut être fort du talent aussi. Là. C'est-à-dire, ouais. il faut comprendre le monde médiatique. Support à médias, il faut que tu aies une idée un peu quand même du monde des médias.
Puis tu peux pas faire comme quelque chose qui existe déjà. Mais là, toi, en plus, tu es dans le monde des médias. Vous êtes complètement différent du Journal de Québec, du Soleil, de la presse, du Devoir. Vous êtes pas à l'extrême, mais vous êtes à l'opposé. Vous avez le vent en face quand vous allez sur les réseaux sociaux, là, on va se le dire. Moi aussi, j'ai le vent en face quand je vois ces réseaux sociaux parce que j'aime bien ça remettre d'en face aux woke à quel point ils sont débiles parfois. C'est une lutte à n'en plus finir contre eux. Puis, tu sais, je ne veux pas revenir nécessairement sur la crise sanitaire, mais il y a des choses qui se sont faites pendant la crise sanitaire qui étaient totalement inacceptables. Puis qui était dénoncé à ce moment-là par toi, par moi, par la station de radio où je travaillais avant, par d'autres animateurs de radio, que ce soit à Québec ou encore sur Internet, qui, quelques mois plus tard, s'avère que c'est nous qui avions raison. Puis on aime bien le rappeler, et ça achale les gens qui étaient les amis du gouvernement en disant « Hey, voyons donc, ils disent qu'ils ont raison, là. Passez donc à d'autres choses. » Comme s'il y avait honte d'avouer que, écoute, le couvre-feu, ça n'avait pas de maudit bon sens, puis je peux pas croire que j'ai embarqué là-dedans, mais c'est vrai, vous aviez raison. Ils sont incapables de le dire.
C'est clair, c'est tellement vrai ça, cette espèce de... Je pense qu'il y a un sentiment un peu de honte refoulée.
Est-ce qu'on est soumis? C'est-tu parce qu'on a été conquis par les Anglais et on n'a pas eu le choix de se soumettre aux Anglais que, je veux pas, ça s'est transmis dans notre ADN? On a toujours besoin d'un berger pour nous diriger?
Oui, je pense que ça découle beaucoup notre statut de colonisé. C'est vrai. Il y a eu évidemment les Anglais, ensuite l'Église, puis là, après c'est le modèle québécois. C'est-à-dire, comme dit le philosophe Christian Saint-Germain, le modèle québécois, cet État omniprésent a remplacé d'abord l'Église, qui elle a un peu remplacé la tutelle anglaise, qui n'a pas remplacé, mais qui a suivi cette espèce, cet encadrement. Donc, on est comme auto-colonisé. C'est-à-dire, là, on pourrait aussi se prendre en main, mais on reste effectivement avec cette espèce de désir d'être encadré, réglementé. On a une société qui est excessivement réglementée, le Québec. C'est très, 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 très aseptisé, très bureaucratique, très technocratique. Et la réaction des gens sur les réseaux sociaux, évidemment, obéit à cette logique. Mais je pense que, comme tu le soulèves, il y a une honte là, un peu... Ils savent qu'on avait un peu raison, comme tu dis, un peu, voire beaucoup raison, là, et qu'ils ne veulent pas trop l'avouer. Donc, tu as un peu des deux. Là. C'est-à-dire que tu as encore des gens qui sont encore complètement dans cette vague-là, et tu as d'autres qui, bon, ils veulent juste pas avouer qu'ils sont trop orgueilleux. Ils sont trop orgueilleux pour dire, ben écoutez, oui, il y a des abus très clairs. Écoute, c'est jour après jour. Tu sais, jusqu'à arrive Cannes. Écoute, même le docteur Fauci aux États-Unis, qui était le Arruda américain, là, qui a dit que la distanciation sociale n'avait pas de fondement scientifique. C'est le Arruda américain qui le dit. Libre Média est le seul média à sortir la nouvelle,
oui.
qui a été reprise quand même dans plusieurs médias anglophones. Puis là, les gens vont dire, on a inventé ça. On cite toutes nos sources. On a des sources en anglais, en espagnol. On en a plusieurs langues, en d'autres langues. On a cité des journaux en allemand. Pour ceux qui seraient tentés de nous dire qu'on invente des choses, là, écoutez, là, toutes nos sources sont là, puis on lit tous les journaux de beaucoup de pays. On a du monde qui travaille en plusieurs langues en plus, Libre Média, c'est-à-dire on a fait des interviews en anglais, on les traduit, j'en fais beaucoup en espagnol, donc c'est même trilingue, Libre Média. Donc faites-nous pas à croire qu'on n'a pas nos sources, etc. Alors, en tout cas, bref, parenthèse, Mais oui, écoute, félicite-toi, Marceau, d'avoir été parmi les très, très rares personnalités publiques à avoir osé s'exprimer autrement sur la pandémie. C'est tout à ton honneur.
Quand on considère que ça ne fonctionne pas, il ne faut pas plier quand les autres disent « Non, mais ça fonctionne. » Non, ça ne fonctionne pas. Les gens veulent qu'on plie, puis on n'a pas plié. Puis aujourd'hui, on est capable de se regarder dans les yeux, contrairement à eux qui ont une petite honte non avouée. Et, au Québec, on appelait... Tu sais, quand les camionneurs ont pris place à Ottawa, là, au Québec, il y a des médias qui les appelaient les terroristes. Là.
Oh, shit!
Il y a des gens qui les ont considérés comme étant des terroristes. Hey, les gars, ils prenaient une petite bière dans un spa à côté de leur camion, puis c'était des terroristes. Là. Ce mot-là est très fort, là. Puis on avait aussi Justin Trudeau qui s'était sauvé, c'était alerte, état d'urgence, s'était sauvé quand les camionneurs avaient pris place à Ottawa. Puis après ça, boum, les mesures d'urgence, les mesures de guerre contre les camionneurs, on dénonçait ça, les mesures de guerre, comme quoi ça n'avait pas de maudit bon sens. On se faisait traiter comme si on était des bons à rien de dire ça dans les médias. Et par la suite, ben ils nous ont prouvé qu'on avait raison. Parce que les mesures de guerre n'avaient pas à être déployées.
Mais regarde, tu vois, c'est un autre développement. Est-ce qu'ils ont gagné une seule game, les sanitaristes, comme je les appelle? C'est-à-dire, en 4-7, là, c'est 4 matchs qu'ils ont gagné aucune partie. Là. Il me semble qu'à chaque fois, c'est toujours des révélations sur un état d'urgence qui était anticonstitutionnel. Sur des mesures qui n'étaient pas scientifiques, mais politiques, il n'y a pas grand-chose, ils n'ont pas grand-chose de leur côté, là. À part dire que, bon, il y avait le principe de précaution. C'est-à-dire qu'au nom de la santé publique, on a détruit la santé de beaucoup de gens. T'sais, même les personnes âgées qui ont eu des muscles atrophiés, vous dites que c'est pour la santé du monde, mais ouais, mais le monde, les CHSLD, ça n'a pas été très santé, là, la pandémie, ça n'a pas été santé pour deux semaines. Là, on déplore que les jeunes sont trop sur les écrans. Le PQ qui veut faire une sorte de je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut propose exactement pour contrer le temps d'écran chez les jeunes, mais le PQ qui a appuyé le sans-ménagement, le confinement, ouais, mais on savait que le monde allait être sur leur tablette, puis leur gadget, puis que les enfants allaient être enfermés dans leur chambre sur des bidules électroniques. C'est une grande nouvelle, ça, là. Vous ne pouviez pas anticiper ce genre de scénario. T'sais, une société, l'équilibre d'une société, c'est extrêmement précaire. Là. C'est-à-dire, on ne peut pas jouer avec les paramètres. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Une société, c'est fragile, c'est comme un écosystème. Tu ne peux pas dire, moi, ça ne me tente plus d'avoir de renard au Québec. Ouais, mais le renard, il mangeait quoi? Peut-être qu'il mangeait une bébite qui, lui, elle, en mangeait une autre, qui en mangeait une autre, qui en mangeait une autre. Et là, tu retires un élément de l'écosystème et tout s'effondre. Une société, c'est pareil. C'est ça qu'on a fait durant la pandémie. On a joué aux apprentis sorciers. On pensait qu'on pouvait tirer sur cette ficelle-là, tirer sur l'autre, puis c'est rien. Non, non, non. Il y a une sorte d'écrasement d'effondrement sociétal souterrain qu'on n'a pas vu. Et il y a encore des séquelles. Puis on le voit évidemment avec la hausse du coût de la vie, l'inflation. Mais puis les séries de faillites aussi, tu as vu, les entrepreneurs qui ne peuvent pas rembourser le cadeau de grec du prêt de la pandémie. Des cadeaux de grec, ça là, là. Combien d'entreprises vont être mises en faillite à cause de ce prêt qu'ils ne peuvent pas rembourser? C'est catastrophique. Puis les gens n'ont pas l'air d'en faire trop de cas. Au Québec, tu sais, c'est. On a appris que 45 000 PME étaient à risque de faillite. Les gens sont allés faire du ski la fin de semaine suivante.
Je vais te raconter une anecdote, puis après ça, je veux parler de ta fameuse boutique en ligne parce que ça me fait bien rire, les grands enjeux que tu rends disponibles sur les réseaux sociaux à chaque fois. Puis j'aime bien ça participer en te taguant sur certains trucs parce que je sais que ça, tu vas apprécier ces affaires-là. Mais je parlais avec André Arthur quand j'ai eu la chance de travailler avec. Puis André Arthur, il y a des gens qui l'aimaient, des gens qui le détestaient. Mais c'est un gars qui était capable parfois de faire des images qui révélaient peut-être qui nous faisait comprendre la société dans laquelle on était aujourd'hui. Puis il avait dit, tu sais Yannick, quand les Anglais ont gagné la guerre, les Français, les officiers, tous les plus brillants Français se sont sauvés. Puis nos descendants, c'était les gens qui dormaient dans les étables avec les animaux. Puis ces gens-là étaient habitués constamment de se faire dire quoi faire. Puis on n'a jamais réussi à se sauver de ça. L'Église est arrivée dans nos vies, le curé qui était là. Puis après ça, ben, quand on a réussi à chasser l'Église puis le curé, ben là, c'est les politiciens qu'on a laissé rentrer dans nos vies. Puis on en vient qu'à appeler le premier ministre Papa Legault. Je veux dire, c'était révélateur ce qu'André Arthur disait. Là. Quand on a perdu la guerre face aux Anglais, les officiers, les êtres les plus brillants ont quitté. Puis nous, ben, ce qui est resté, c'est ceux qui restaient dans l'étable. Puis eux autres étaient habitués de se faire dire quoi faire. C'était pas du mauvais monde, hein, mais ils étaient habitués de se faire dire quoi faire. Puis des grosses têtes fortes, ben, ils étaient peut-être mis en prison par les Anglais ou ben, ils étaient déjà partis.
Terrible, hein? C'est terrible, ça, comme constat historique. Puis c'est vrai, effectivement, la fuite des officiers. Parce que Dieu sait que le Québec, c'est pas la France, là. C'est ça, c'est un peu étonnant, tu vois, parce que les Français sont tellement plus intrépides que nous. Et moi, j'ai beaucoup d'amis français, là, puis il me semble qu'à chaque fois que je dans un apéro à Paris, c'est tellement différent, la mentalité. Les gars sont bien plus fonceurs que nous, là, au Québec. Là. Nous, on est là, puis on parle. J'ai rénové ma salle de bain la semaine passée. Ouais, mais je suis pas contre ça, là. Mais tu sais.
Mais juste les dépôts.
Non, mais il y a des gens qui pensent que je compte les chalets et les salles de bain. Moi aussi, non. J'aime ça, les belles salles de bain. Comprenez, c'est des images que j'emploie, soit dit en passant. Mais... pour ceux qui pensent que je compte les chalets, je suis pas contre les chalets, c'est une image, le chalet.
Mais enfin. Juste à écouter les débats en France, là, on est à l'opposé de tout ce qu'on peut entendre comme débat. Tout le monde en parle le dimanche, là.
Complètement.
T'as des gars et des filles qui sont d'un bord et de l'autre, puis ces gens-là débattent ensemble, puis parfois la parole peut-être peut dépasser la pensée, mais les gens sont choqués, mais tout ce beau monde-là participe au débat, puis ils ont réussi à se faire une tête après ce débat-là, tu sais. Mais au Québec, avoir ce type de débat-là, je veux dire, il y aurait des gens qui dénonceraient à quel point il y a de la violence verbale. À tout le monde en parle le dimanche soir, si c'était comme en Europe.
Ah, c'est vraiment fragile, le Québec. C'est très, très fragile. Donc, tout le monde en parle, c'est vraiment un... C'est emblématique, là. Écoute, c'est comme les fidèles. C'est entre le tribunal puis la messe, là. Puis la familiarité aussi, c'est tellement familier, tu sais, les gens se tutoient, tu sais, je suis pas contre de se tutoyer, là, mais tu sais, Guillaume Lepage qui reçoit un invité qui va le tutoyer presque directement, alors que c'est censé être quelqu'un qui doit affronter, tu sais, comme journaliste, c'est un peu bizarre, c'est curieux,
ouais.
c'est très curieux comme approche.
Jérôme?
Mais écoute, oui, vas-y.
Le temps me manque, parce que tu parlais de Libre Média, puis il faut le financer, ce média-là, vous gagnez votre argent avec ça, là. On peut vous consulter sur YouTube, on peut avoir accès à tes grandes entrevues avec des gens qui ont réellement des choses à dire, mais tu as une boutique aussi, une boutique en ligne où tu vends des t-shirts, des tasses de café, des gilets capuchons, on appelle ça des hoodies maintenant pour les plus jeunes, ils appellent ça des hoodies, c'est plus cool.
Ben oui.
Puis tu as ton hashtag grands enjeux. Moi, je pense que c'est celui que je vais me procurer, le hashtag Grands Enjeux, parce que c'est, je pense que c'est mon préféré. On peut suivre sur les réseaux sociaux, puis quand on voit un article de TVA Nouvelle, exemple, qui parle d'un chat qui est perché dans un arbre, puis qu'on a de la difficulté à le récupérer, ben, toi, tu te fais un plaisir de prendre un screenshot de ça, puis marquer Grands Enjeux. Ça nous fait rire.
Mais tu y participes aussi un peu, là. T'es rendu un peu là-dedans. Ouais, enfin, moi, c'est ça m'est arrivé de t'en repiquer deux ou trois, là, qui sont assez savoureux.
Moi, j'ai parti les sachets-là.
Sachez-le. Ah oui, sachez-le, c'est bon. Ben oui, sachez-le. Oui, c'est bon, c'est connexe.
Fait que c'est ça. Toi, t'as les grands enjeux. Moi, j'ai les sachets-là. C'est juste que les sachets-là.
Il y a une couple d'hashtags pas pire, hein, qui sont partis. Comme Jonathan Hamel, lui, s'est fuyé.
Oui.
L'extrême droite est quand même drôle. Moi, j'ai le déclin aussi. J'en ai deux. J'ai les grands enjeux qui dominent, mais le déclin.
C'est ça. Ça fait partie de nos belles personnalités.
On s'amuse.
On s'amuse
aussi. Parce que dans le fond, on a du fun au travers de ça.
Exact. Donc, j'invite les gens à aller sur libremedia.com et s'abonner, puis consulter les articles aussi qui sont disponibles, bien entendu. C'est un média qui doit exister, puis ça doit vivre très, très, très longtemps. Jérôme Blanchet-Gravel, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Je te souhaite de passer du bon temps au Mexique. Tu reviens au Québec quand, là?
Je te dirais début avril.
Début avril. Donc, on t'invitera en studio à ce moment-là, si tu as le temps. Ça a été un plaisir. Je te souhaite de passer une belle fin de soirée.
C'est toujours un plaisir également.
Merci.
Salut, Marceau. Merci.
Nous, on se lâche. Je vous souhaite de passer un excellent vendredi soir sur les ondes de Boulevard 102.1. Puis on se rejase lundi, sans faute, 11h pour ce qui est de Marceau le midi.